femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les mal de vivre. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. De la rationalité du capital, la globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout, on ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants, le vampire. Il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, monsieur la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence,
en tout cas
pas
de inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est Vérégor. Chaque semaine, sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et Radio Primitive sur un. C'est Vérégor, une parole anarchiste communiste. Bonsoir.
Bonsoir. Alors bon, on va peut-être commencer tout de suite par vous reparler de ce qu'on avait entendu la semaine dernière avec Hakim, puisqu'on a une mauvaise nouvelle oui. On a appris une mauvaise nouvelle aujourd'hui, hein, c'est ça, ouais, l'information date d'aujourd'hui.
C'est ça. Alors c'est la CFDT Nettoyage qui tente de le liquider, quoi. Alors tout simplement en s'appuyant sur la loi. Puisque la loi, si elle autorise le cumul des mandats chez un même employeur, elle n'autorise pas ces mandats pour trois employeurs différents. Alors, il faut rappeler qu'au niveau de la précarité, il faut rappeler qu'il n'y a pas que le site SNCF Gare de Serlitz, dans lequel il travaille depuis 31 ans, c'était qu'un seul lot avant. Maintenant, c'en est trois. Alors, c'est-à-dire qu'il y a trois entreprises différentes qui interviennent pour faire le nettoyage dans cette gare. Or, Hakim est salarié de ces trois entreprises et il est soit délégué syndical, soit délégué du personnel, soit membre du CE dans ces entreprises. Et il a, au niveau de la loi, effectivement... Il y a un problème. Sauf que ce problème, c'est pas le patronat qui le souligne, qui va donc traduire Hakim devant la justice. C'est tout simplement le syndicat CFDT Nettoyage, tout simplement. On en avait parlé, c'est ces fameux jaunes qui bossent dans cette boîte laser. À l'intérieur, pas qu'à laser d'ailleurs, je crois qu'ils sont un peu partout, et qui donc vont tout faire, certainement, pour liquider ce militant syndicaliste sud. C'est vraiment assez horrible.
Alors là, tu l'as dit, c'est le délégué CFDT, enfin c'est le mec de la CFDT de Chalencin, hein, qui est l'autre boîte, hein, c'est ça.
C'est ça.
Mais bon, hein, c'est la même crèmerie en fait. Hein, disons qu'il y a une organisation et un management de la main d'œuvre comme l'avait expliqué Hakim, et que effectivement Hakim dans ce petit monde là il est fiché, quoi. Donc c'est pas la première fois, quoi, puisque Hakim nous avait raconté qu'il avait déjà eu trois tentatives de licenciement.
Ouais.
Et que du coup, en conséquence, sans entrer dans une apologie du mandat syndical et de la délégation syndicale, mais là, pour le coup, ça le protégeait en tant que travailleur protégé. Il pouvait aller justement mettre quelques grains de sable dans les rouages. Et évidemment, il est clair que la perte de son mandat est certainement, sûrement même, le préalable à un licenciement.
À un licenciement, oui.
Donc voilà. Bon, de toute façon,
on vous tient au courant.
Ouais. toute façon, Hakim n'est pas une victime, hein, vous avez bien.
Oui, oui,
vous avez,
tout à fait.
Il va se battre et il n'est pas tout seul, il va se battre à ses côtés. Hein. On va se battre à ses côtés, bien sûr.
Alors justement, je crois qu'il a fait un communiqué qui est aujourd'hui sur quelque chose qui est nouveau sur Paris. Que tu dois, t'as dû certainement entendu parler, c'est tout simplement le site Paris en lutte, c'est ça ?
Paris lutte info.
Paris lutte info, c'est ça.
Voilà. Qui est un site de contre-information et de contribution participative. On peut poster des choses, soumettre, et c'est extrêmement intéressant, quoi. Effectivement, ce site a relayé de manière très importante. La lutte et ce qui s'est passé à la gare d'Austerlitz, mais là vraiment la CFDT franchit des seuils tous les jours de plus en plus élevés dans la saloperie, puisque j'ai cru entendre aussi que elle allait certainement foutre la merde à Maurice vraiment là la CFDT un Camille hein, c'est ça hein. Elle va empêcher le.
Alors, donc, ça passait la reprise de Maurice passait au tribunal la semaine dernière. Et mais il fallait l'aval de la reprise par les syndicats majoritaires, ouais. Et la CFDT n'avait pas signé. Donc là, c'était aujourd'hui que ça repassait, et bon, les salariés demandaient que l'accord soit signé pour qu'ils soient enfin tranquilles, que cette affaire se termine. Bon. Pas bien pour beaucoup, puisqu'il y a à peu près 3000 licenciés, mais voilà.
Ouais, ils ont la solution la moins pire. Mmh. Ouais. Bon, alors, aujourd'hui, moi, tu voulais encore dire quelque chose dessus.
J'ai peut-être des autres trucs, on verra ça après.
On verra ça après. On va quand même revenir sur quelque chose qui est très intéressant, dont on ne parle plus du tout, puisque, vous le savez, c'est la crise, c'est la merde, et il faut faire des efforts. Mais pendant ce temps-là... on s'amuse toujours, en tous les cas, nos braves piou-piou sont toujours en Afrique en train de d'occuper deux pays, puisque ce n'est plus un, mais deux pays, deux opérations. La première, c'est celle du Mali, dont on avait parlé plusieurs fois ici, et la seconde, c'est celle de la Centrafrique. Depuis quelques semaines, maintenant, l'opération Sangaris, puisque les militaires sont aussi des poètes, hein, c'est un papillon africain, on apprend la botanique, et, avec la faune et la flore, avec les militaires. Et donc là, nous vous proposons d'écouter un entretien avec... réalisé par les camarades de Radio Canu, avec Yanis Thomas, qui est membre de l'association Survie, et qui va parler de la Centrafrique. L'association Survie, c'est une association qui a été fondée par François-Xavier Verschave, décédé depuis, et qui justement a mis au jour ce concept de France-Afrique. Et c'est une association qui produit des documents, des analyses et des interprétations très intéressantes de ce qui se passe en Afrique, avec les Africains en plus, pour la plupart du temps. C'est pas un regard de chercheur, on va dire, ou de spécialiste sur l'Afrique. Ça vient aussi de la part de militants africains. Et voilà, ça dure une vingtaine de minutes, et c'est très intéressant de prendre le temps de déconstruire un peu, d'autant plus que la Centrafrique, c'est vraiment le précaré de la France, quoi.
En Centrafrique, en ce moment, c'est la deuxième guerre de François Hollande en Afrique depuis qu'il a été élu. C'est aussi, me semble-t-il, la 50e intervention de la France en Afrique depuis les indépendances des anciennes colonies. Et alors du coup, sur la Centrafrique en particulier, et ben peut-être pour essayer de comprendre ce qui s'y passe, qu'on pourrait remonter au départ des relations de la France et de l'Afrique, c'est-à-dire la colonisation, la fin de la colonisation et ce qui s'est passé depuis.
Tout à fait. Tout d'abord, il faut savoir que la colonisation de la Centrafrique a été extrêmement violente, une très grosse utilisation des travaux forcés, vraiment une colonisation très très dure. Et une décolonisation qui l'a été tout autant, dans la mesure où la France n'a jamais laissé la souveraineté des citoyens centrafricains s'exprimer. On peut faire démarrer l'ingérence de la France en Centrafrique avec la venue au pouvoir de Jean-Bédel Bokassa, qui est connu en France particulièrement pour avoir offert des diamants à Valéry Giscard d'Estaing, qui a régné donc de 1966 à 1979, ou ses frasques devenant trop trop importantes, dans la mesure où il s'était fait proclamer empereur, aussi commençait à se rapprocher de la Libye de Kadhafi, la France a décidé de mettre un terme à son règne, a envoyé un corps expéditionnaire de parachutistes, l'a destitué et a mis à la place David Dacko, qui était une espèce de solution intermédiaire et qui n'est resté que 3 ans au pouvoir. En 1982, la France soutient un nouveau coup d'État du général Kolingba, qui va régner pendant toute la décennie des années 80 et qui, au moment du tournant de la fin de la guerre froide, va mettre en place un système d'élections libres, comme on verra dans d'autres pays d'Afrique, élections qui seront gagnées par Ange-Félix Patassé, qui restera au pouvoir pendant 10 ans. Alors, 10 ans de pouvoir mouvementé, la France va intervenir extrêmement souvent. Ange-Félix Patassé va être confronté à des mutineries de la part de ses soldats, donc la France va déclencher des opérations à chaque fois pour aller le soutenir. Et Patassé sera finalement renversé en 2003 par Bozizé, toujours avec l'accord tacite de la France et l'aide du Tchad. Et on se retrouve dans la situation actuelle où Bozizé est renversé par une coalition, donc la Séléka, une rébellion, avec, on considère à survie, au moins l'accord tacite de la France, dans la mesure où il y avait des soldats français à Bangui et qui n'ont rien fait pour empêcher la chute de Bozizé.
Et alors, ça, tout ça veut dire que tous ces chefs d'État qui sont succédés, il y a eu une fois des élections depuis, et le reste, ça a tout le temps été des changements, des coups d'État qui sont faits avec le soutien de la France.
Voilà, il y a eu une élection au moment des indépendances, comme ça s'est fait à chaque fois, mais le pouvoir a été très rapidement récupéré. Et donc, il y a eu qu'une seule, en 2011, il y a eu une élection aussi, mais extrêmement sujette à caution, de Bozizé, qui a été reconduit dans ses fonctions. Mais de véritables élections, il y en a eu extrêmement peu, à part en 93 ans.
Aujourd'hui, on se retrouve donc avec Michel Djotodia, qui est au pouvoir, qui a été porté au pouvoir lui aussi par une rébellion armée. Voilà. Cette rébellion, elle sort d'où? C'est qui?
Alors, c'est une rébellion qui est assez... assez récente, elle démarre en août 2012. Alors, c'est une coalition de 4 groupes principalement qui viennent du nord du pays. Il y a la Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix, dirigée par Noureddine Adam, qu'on retrouvera peut-être tout au long de cette interview. L'Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement, donc de Michel Djotodia. Le Front Démocratique du Peuple Centrafricain d'Abdoulaye Mishkin et la Convention Patriotique du SADU du Codro. Alors Codro, dans la langue centrafricaine, ça veut dire le pays. Donc c'est 4 mouvements principalement qui se coalisent et qui vont mener une offensive d'une rapidité fulgurante qui part du nord et qui arrive, il commence en début décembre et fin décembre, ils sont aux portes de Bangui. Et ils forcent Bozizé à des négociations à Libreville sous l'égide des autres dirigeants des pays de la zone, donc par exemple Denis Sassou Nguesso, qui dirige le Congo Brazzaville, va être très impliqué dans ces négociations. Le Tchad va aussi être très impliqué. Il y a une feuille de route qui est établie, qui prévoit la mise de côté de Bozizé. Il garderait le statut de président, mais ne serait plus véritablement aux commandes. La nomination d'un premier ministre, qui est M. Tiangay, qui est encore là actuellement, ministre issu de l'opposition, et ceci était en contrepartie, Bozizé devait aussi libérer des prisonniers politiques, un certain nombre de clauses. Et la Séléka considérait en mars que ces clauses n'avaient pas été respectées, et elle relance l'offensive fin mars et fait tomber Bangui et le régime en très peu de temps. Et à cette occasion, ni la France, ni les troupes africaines de la FOMAC, donc qui est une force internationale qui était censée soutenir l'action de l'armée france-africaine, ne vont intervenir, donc le régime tombe. François Bozizé part au Cameroun et Michel Djotodia arrive au pouvoir.
Mais alors, ces 4 groupes de la Séléka, Par quoi ils sont animés ? Est-ce qu'ils ont une motivation idéologique, religieuse, économique ?
Au-delà des aspects généralement énoncés d'une amélioration de la situation, il n'y a pas véritablement de ligne politique ni religieuse. Alors, le religieux arrive dans le conflit parce que ces régions, ces rébellions sont principalement issues du nord, qui est plutôt musulman, alors que le sud du pays est plutôt chrétien. Donc c'est ici qu'il y a une entrée religieuse dans le conflit, mais véritablement, et on le voit bien, il n'y a aucune ligne politique claire défendue, et on se retrouve plutôt dans un système de pillage du pays. Les groupes armés se payent sur la bête, et donc on est depuis le renversement du régime de Bozizé dans vraiment une déstructuration totale de l'État centrafricain et un pillage considérable.
Est-ce que ça veut dire que c'est ça leur motivation ?
Je ne sais pas si on peut dire que c'est ça leur motivation. En tout cas, c'est le résultat. Et d'un point de vue des politiques mises en place, pour l'instant, c'est de l'ordre du néant. Il n'y a pas eu de véritable reprise en main des troupes. On ne sait même pas qui dirige véritablement les éléments de la Séléka à l'heure actuelle. Le président Jodan n'a pas, ne semble pas avoir un véritable poids sur elle. Les chefs de guerre qui composaient la rébellion se sont autonomisés au fil du temps, et donc on est dans une situation extrêmement instable, où il est difficile de trouver et des interlocuteurs et véritablement définir des forces en présence.
D'autant plus qu'il y a eu un divorce entre Jotodia et la Séléka.
D'autant plus qu'il existe un divorce entre Jotodia et la Séléka. Comme je le disais, je n'ai pas en tout cas d'informations me donnant l'impression que quelqu'un dirige particulièrement cette institution. Il y a, on pourrait dire, Noureddin Adam, qui a un poids extrêmement fort, mais à l'extérieur de Bangui, chaque chef a une très grande autonomie et se paye généralement en instaurant des barrages et des droits de passage sur les routes, ce qui fait qu'il y a une multitude de groupes armés, de bandes armées qui ne sont pas reliées entre elles ou très peu, qui sèment la terreur dans le pays.
Alors, est-ce que ces bandes armées sont particulièrement sanguinaires, ou qu'est-ce qui se passe pour que la communauté internationale, et là semble-t-il de façon relativement unanime, trouve qu'il fallait absolument que quelqu'un intervienne en Centrafrique ?
Il se trouve qu'elles sont tout à fait sanguinaires. Hein. Il y a eu des meurtres et des exactions commises en très grand nombre. La situation a d'autant plus dégénéré récemment, puisque les populations donc du sud, majoritairement chrétiennes, se sont constituées en milices d'autodéfense et ont répliqué aux troupes de la Séléka et qui elles étaient plutôt musulmanes, et d'une situation de rébellion finalement un petit peu de pillage du pays, on en arrive à une situation de conflit religieux, où il commence à y avoir une scission qui se fait entre la communauté chrétienne et la communauté musulmane, ce qui ne s'était jamais vu. Il n'y avait jamais eu ce genre de scission. Et donc la situation devient extrêmement préoccupante, d'où le fait d'une mobilisation accrue de la communauté internationale.
On entend ici et là le mot de génocide qui est prononcé, de risque de génocide, et quand les gens parlent de ça, le risque, ça serait un génocide de qui sur qui ?
Alors, le terme de génocide est amené avec extrêmement de prudence, véritablement. Il est surtout instrumentalisé, il sert à faire peur, bien qu'il y ait des exactions effroyables. Pour l'instant, bien que les chefs diplomatiques les utiliser, je pense notamment à Laurent Fabius, je pense aussi à un responsable américain. Les analystes et les chercheurs sur le sujet sont beaucoup plus mitigés sur cette idée de génocide. Il s'agit beaucoup plus d'un conflit, il y a des crimes contre de guerre et des crimes contre l'humanité, mais il n'y a pas véritablement la pensée de la destruction de toute une catégorie de la population, faite par un État, qui est le principe d'un génocide. il ne faut pas minimiser l'ampleur des exactions, mais le terme de génocide n'est pas adapté, à mon sens, pour caractériser la situation actuelle.
Pour l'instant, on pourrait plutôt parler de guerre civile.
Voilà, c'est une guerre civile extrêmement violente. C'est des trois termes. Mais on ne peut pas, à mon sens, qualifier de génocide la situation dans l'état actuel.
Alors, quand la France décide d'intervenir, elle décide d'intervenir en choisissant son camp, ou comment est-ce que ça se passe ?
La France décide d'intervenir beaucoup plus dans une, à mon sens, dans une vision de gendarme, comme on le dit souvent, c'est-à-dire d'essayer de stabiliser cette situation qui risque de dégénérer et donc de se répercuter sur tout le reste de la sous-région qui est assez instable quand même avec le Sud-Soudan, le Tchad, la République démocratique du Congo qui est à côté. C'est un petit peu dans l'idée d'aller faire le gendarme. Et je ne crois pas, je ne sais pas à l'heure actuelle, on a entendu les déclarations de monsieur Hollande disant que peut-être Michel Dautin ne devrait pas rester au pouvoir. Je ne sais pas à l'heure actuelle quel camp peut choisir la France, et si tant est qu'elle en choisit un, je pense qu'elle y va principalement pour stabiliser la situation, de peur qu'elle n'échappe à son contrôle et donc qu'elle perde cette zone d'influence.
Qu'est-ce que la France va chercher en Centrafrique ? Est-ce que c'est le contrôle de la zone d'influence ? Est-ce que c'est que ça ? Est-ce qu'il y a aussi des richesses en Centrafrique qu'il faudrait protéger et garder pour les entreprises françaises ?
Alors, il y a quelques richesses. Il y a notamment un site d'uranium qui serait potentiellement intéressant pour Areva. Il y a des diamants, il y a du bois, mais ce n'est pas le cœur. Le cœur de l'intervention française ne se fait pas, à mon sens, sur cet aspect. Il se fait principalement sur un aspect géopolitique, d'une ère de puissance. La Centrafrique fait partie du précaré africain, ce que nous on appelle la survie, le précaré africain, c'est-à-dire l'espace sur lequel la France veut avoir une influence prépondérante, un peu sur son arrière-cour. Et donc, aller stabiliser la Centrafrique, c'est garder cette zone d'influence, c'est asseoir son pouvoir et montrer qu'elle est toujours une puissance.
Comment se fait-il dans ce cas, si c'est des intérêts vraiment typiquement français et vraiment des intérêts de zone d'influence, que le Conseil de sécurité des Nations Unies ait voté à l'unanimité pour l'intervention de la France ?
Eh bien, parce qu'en fait, on reste dans un schéma qui était celui de la guerre froide. Pendant la guerre froide, au sein du camp occidental, la France avait un petit peu la gestion de ses anciennes colonies et devait empêcher l'influence soviétique dans ces pays. Et on reste dans cette dynamique de « c'est une ancienne colonie française, donc c'est la France qui doit intervenir ». Et ce n'est pas à d'autres membres du Conseil de sécurité de s'occuper de cette affaire, d'où une unanimité totale du Conseil de sécurité.
La France, pour autant, préférerait ne pas passer pour la seule puissance qui intervient. Toute une question est de savoir si d'autres pays européens vont intervenir, si ça aurait été à l'Europe en tant que telle d'intervenir.
Alors, la France essaye désespérément de trouver le maximum de couverture, d'essayer de casser son image d'unilatéralisme qu'elle a eu aussi au Mali. Et pour l'instant, elle n'arrive absolument pas à entraîner l'Europe derrière elle. Peut-être en grande partie parce que les pays européens ne voient pas pourquoi ils iraient s'engager dans des aventures un petit peu néocoloniales. Ils se posent véritablement la question. Donc pour l'instant, la France est très seule et hormis l'aide un tout petit peu et en bilatéral de l'Angleterre, il y a à mon sens peu de chances pour qu'il y ait un engouement pour envoyer, pour que d'autres pays européens envoient des troupes en Centrafrique. D'autant plus que la situation est extrêmement tendue et que le risque de dérapage est très fort.
Et qu'est-ce qu'il en est des autres pays africains, le Tchad en particulier ? Leur intervention, c'est quoi ? Ça sort d'où ? Elle est motivée par quoi ?
Alors, si on a vu que les pays européens sont assez absents, par contre, les pays africains, qui sont les principaux voisins de la Centrafrique, ne sont pas du tout absents. En premier lieu, le Tchad, qui est dirigé par Idriss Déby, qui est en place depuis 23 ans, qui est un dictateur soutenu par la France et qui véritablement considère la Centrafrique comme son arrière-cour. Bozizé était arrivé au pouvoir en 2003 en étant aidé par des Tchadiens. Actuellement, une grande partie des rebelles de la CEK viennent du Tchad et il y a véritablement un rôle extrêmement trouble du Tchad dans la crise centrafricaine. Il a été fait écho dans les journaux d'une complaisance des soldats tchadiens de la FOMAC, donc cette force qui est censée protéger les populations, qui est désormais d'ailleurs la MISCA, qui est une force de l'ONU. Et donc il y a donc un rôle très trouble et une volonté d'ingérence peut-être et sûrement du Tchad dans les affaires centrafricaines.
Et cette volonté d'ingérence, c'est quoi? C'est une volonté de pouvoir de la part d'Idriss Déby?
C'est une volonté de pouvoir d'Idriss Déby, sachant que Idriss Déby est depuis la guerre au Mali est en train de se positionner un peu comme un pivot de la France-Afrique, donc de ce système qu'on dénonce à survie, puisqu'il est allé aider les Français au Mali. Il s'implique énormément, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la question centrafricaine. Il y a un véritable retour en grâce sur la scène internationale du Tchad qui permet d'évacuer la question de toute la répression qui existe au Tchad. Donc il y a une volonté aussi d'influence de la part de ce pays.
Est-ce qu'il serait audacieux de dire que Idriss Déby joue dans l'Est de l'Afrique le rôle que Blaise Compaoré joue dans l'Ouest?
Il peut y avoir cette idée de vouloir gérer un petit peu les affaires de la sous-région. Bien que ce soit un peu plus compliqué en Afrique centrale, puisqu'il y a d'autres dirigeants de pays centrafricains, par exemple comme Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, qui ont un poids très fort aussi. Il y a aussi une lutte de pouvoir entre pays de l'Afrique centrale pour savoir qui rayonnera sur la sous-région.
Et alors mes dernières questions, ça serait sur la durée de l'intervention là, qui est toujours en question, en sachant que le Mali, bien sûr, la France y était allée pour quelques mois maximum, que ça fait un an et qu'elle n'a pas l'air d'être prête d'en ressortir, sans revenir sur la Côte d'Ivoire ou même une intervention au Tchad dans les années 80, où à chaque fois c'était pour quelques mois et la France a toujours des militaires là-bas. Est-ce que là, c'est la même chose? On risque de... Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les militaires français vont rester en Centrafrique pour des dizaines et des dizaines d'années? Et aussi, la question annexe, c'est qu'est-ce que c'est les perspectives pour la Centrafrique? Est-ce qu'il va y avoir des élections? Comment est-ce que ça va se passer?
Alors, combien de temps va rester la France? C'est une bonne question. Sûrement pas les 6 mois annoncés. Ça paraît extrêmement extrêmement court, d'autant plus que les forces africaines de la MISCA qui sont censées remplacer progressivement l'armée française ne semblent pas ni formées, ni équipées, ni avoir la chaîne de commandement assez structurée pour prendre véritablement le relais. Donc on y est sûrement pour encore longtemps. Et la question de qu'est-ce qui va ressortir de ça? Alors, il y a une volonté de faire le plus rapidement possible des élections, un petit peu comme ce qui a pu être fait au Mali, de trouver un pouvoir légitime le plus rapidement possible, puisque ça commence à faire cruellement défaut, puisque et le président et le premier ministre sont vivement critiqués pour leur gestion de la crise. Donc l'idée sera sûrement d'aller le plus vite possible vers des élections, pour avoir un pouvoir qui soit le moins fantoche possible, si je puis dire, et à partir de là, essayer de reconstruire les institutions d'État qui sont absolument qui n'existent plus, tout simplement en Centrafrique, avec aussi le problème principal du pays, qui est sa très grande taille, et donc de réussir à faire à stabiliser la situation sur l'intégralité du territoire, ce qui peut prendre énormément de temps, de déployer, de redéployer une administration en bonne et due forme sur un territoire aussi grand, avec les troubles que le pays connaît actuellement.
Et alors, toute dernière question, c'est votre position à vous à survie, est-ce que vous pensez qu'il fallait que la France intervienne?
circonspect à chaque fois qu'on voit une intervention française en Afrique, bien évidemment. La question est encore en débat au sein de l'association, puisque un petit peu comme au Mali, il est vrai qu'il faut intervenir. Il est nécessaire de mettre fin aux violences. Nous, ce qu'on dit, c'est que la France n'est pas légitime pour faire cela, parce qu'elle a une part de responsabilité extrêmement importante dans cette situation. Et donc de là, c'est un petit peu appelé la personne qui crée les troubles pour les résoudre. Donc il y a véritablement un problème de légitimité de la France de cette intervention française. Mais bien qu'elle soit couverte par l'ONU, ça, il n'en demeure pas moins que c'est encore une fois une ingérence et une intervention qu'on pourrait qualifier de néocoloniale.
Alors, pas grand-chose à rajouter, puisque c'est particulièrement lucide et en tous les cas, clair. Peut-être quand même un mot sur la conclusion. Hein. Nous, on se pose pas la question, on fait pas débat. Il est clair que si la France intervient, c'est pour... en raison de tout ce qui a été évoqué ici, mais que ce type de problème et la guerre... civil qui avait lieu en Centrafrique n'est que le résultat du passé agité et trouble qu'a connu ce pays et ses institutions, et que les problèmes des Africains, ils peuvent se régler par les Africains eux-mêmes. Alors certes, bien sûr, l'ancienne puissance coloniale, elle peut apporter tous les moyens et elle doit apporter tous les moyens puisqu'elle est responsable de la situation, mais une fois de plus, on fait passer les Africains et les Centrafricains soit comme des grands enfants qui sont incapables de se débrouiller tout seuls, soit comme des sauvages qui seraient susceptibles, s'il n'y avait pas la tutelle des Occidentaux, d'être incapables de gérer leurs passions et de gérer leur folie meurtrière et leurs différents politiques. Voilà. Il y a encore une fois là un point de vue de l'Africain en tant qu'éternel mineur, au sens où il a vraiment besoin soit d'une sévère d'un sévère contrôle, soit en tous les cas d'une voie à suivre, et la France et la communauté internationale sont là pour ça, quoi. Bon,
je pense que survie doit être comme beaucoup de Français, finalement, humanistes, etc., sont choqués par les images, effectivement, de ce qui se passe là-bas au niveau de la guerre civile et au niveau de la violence, et comme beaucoup d'associations humanitaires, bon, ils veulent que ça cesse ou ça soit réduit. Bon, alors comme la France est là-bas, si elle pouvait faire quelque chose, c'est leur point de vue. Hein. Mais il le dit quand même, hein. On a créé cette situation et maintenant c'est nous qui allons essayer de la résoudre. C'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, par là, faut arrêter quoi ce type de comportement impérialiste. Hein, faut dire ce qu'il y a. Donc là, je crois que bon, ces interrogations dont il parle à la fin, ces interrogations bon, d'associations humanitaires qui essayent, dirons-nous, de bah oui. Parce que effectivement, quand on est une association humanitaire, on peut être choqué, et c'est normal, par tout ce qui se passe là-bas. Mais bon, en aucun cas, on pense vraiment que la France puisse résoudre ce problème.
C'est clair. On va s'écouter un peu de musique et puis on parlera d'autre chose, totalement autre chose.
If I had a hammer, I'd hammer in the morning. I'd hammer in the evening, all over this land. I'd hammer out danger, I'd hammer out a warning. I'd hammer out love between my brothers and my sisters, all over this land. If I had a bell, I'd ring it in the morning. I'd ring it in the evening, all over this land. I'd ring out danger, I'd ring out a warning. I'd ring out love between my brothers and my sisters, all over this land.
If I had a song,
if I had a song, I'd sing it in the morning. I'd sing it in the evening all over this land. I'd sing out danger, I'd sing out a warning, I'd sing out love between my brothers and my sisters all over this land. Well, I got a hammer, and I got a bell, and I got a song to sing all over this land. It's the hammer of justice, it's the bell of freedom, it's the song about love between my brothers and my sisters all over this land.
Oui, alors, on a des tas de nouvelles, en particulier, moi j'ai un truc qui me tient à cœur, c'est Pôle emploi. Et oui, Pôle emploi. Il y a eu sur le blog Le Monde du Monde du 27 janvier, donc c'est très récent, un article de comment je contrôle que les chômeurs cherchent bien du travail. C'est une conseillère à Pôle emploi qui s'est portée volontaire à l'été 2013, c'est-à-dire qu'il y a environ 6 mois, pour faire partie des nouvelles équipes de contrôle de la recherche d'emploi des chômeurs, expérimentée dans la plus grande discrétion dans 12 agences. Donc elle raconte pour Le Monde comment elle travaille. Et si cette expérience est jugée concluante pour la direction, quand même, c'est important, elle sera étendue à partir de juin 2014 à toutes les agences. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, on la laisse parler, cette femme. Et là, on s'aperçoit quand même qu'on est dans une situation où les trucs réactionnaires sont de plus en plus présents dans la société française et s'étalent. Avant, généralement, ceux qui avaient une fonction sociale complètement dégueulasse essayaient de la masquer ou essayaient de ne pas trop en parler. Mais là, carrément, cette femme a choisi le blog du Monde pour s'exprimer. Alors, elle s'exprime donc. Nous recevons tous les jours des listes de chômeurs à contrôler, sélectionnées de manière aléatoire. Nous n'avons pas d'objectif chiffré pour l'instant. Mais je dirais que chaque conseiller contrôle entre 5 et 10 chômeurs par jour. Il s'agit d'abord d'un travail de pédagogie. Nous contrôlons même les personnes qui travaillent régulièrement. Nous examinons d'abord si le chômeur a suivi tous les projets d'accompagnement, s'il a créé un espace personnel en ligne et s'il s'est abonné aux offres. Nous menons ensuite systématiquement un entretien téléphonique. Les contrôles qui se passent bien durent environ entre 20 et 30 minutes et s'arrêtent là. Mais si les éléments qui nous semblent pas satisfaisants, nous envoyons un courrier pour dire qu'il faut fournir des justificatifs. Le courrier contient un questionnaire qui demande notamment quelles sont vos démarches actives pour rechercher un emploi? Avez-vous envoyé des CV? Avez-vous fait des candidatures spontanées? Voilà ce que dit cette femme, mais vous allez voir qu'elle, ça va encore plus loin. Alors ensuite, elle dit, nous sommes toujours sur le fil du rasoir pour savoir si on sanctionne ou pas. Les décisions sont souvent prises après une discussion collective au sein de l'équipe de contrôle.
Non, mais sans chômeur. Hein.
Ouais. Et alors, elle se permet de dire, la majorité des demandeurs d'emploi sont contents de ce contrôle.
Très bien
oui,
sûr.
Ça justifie le fait qu'elle puisse se faire ce travail, parce que ces chômeurs estiment normal qu'on vérifie qu'ils cherchent bien du travail. Il y a aussi ceux qui nous disent qu'ils ne cherchent plus parce qu'ils sont au fond du trou, à bout, vidés, après 2 ou 3 ans de chômage. On ne les sanctionne pas, tu vois, l'humanitaire qui revient là, on ne les sanctionne pas. Le fait de les contrôler va, en plus, souvent les faire redémarrer. C'est sûr que contrôler les gens, ça les fait redémarrer. Alors plutôt que de le prendre une sanction, je décide alors de lancer un accompagnement, très à la mode, et je mets leur dossier en attente. Mais cela prend du temps. La dernière fois, j'ai reçu un chômeur qui n'avait jamais fait de démarche. Il a fallu 1 mois avant que son conseiller ait un rendez-vous de libre, puis encore 1 mois pour qu'il puisse rentrer dans un accompagnement spécifique. Le temps de vérifier s'il s'y rendait bien. J'ai clôturé le dossier au bout de 3 mois. Je suis content de faire cela. Je contrôle vraiment tout type de profil. Écoutez bien, ce matin, j'ai radié une personne qui était à 2 ans de la retraite. Son conseiller lui avait dit d'envoyer des candidatures qu'elle n'avait pas fait. On tournait en rond. Nous radions environ 10% des chômeurs contrôlés. C'est très intéressant, ça. D'accord. Et ça va se mettre en place, faut-il le rappeler, il y a de grandes chances que ça se mette en place sur toute la France en juin 2014. Seul un tiers se réinscrit ensuite à Pôle emploi, des radiés. C'est aussi une information intéressante. Quand on nous parle de 3,8 millions de chômeurs, mm-hmm. eh ben, je veux dire, on est loin du compte, c'est moins qu'on puisse dire. Pour l'instant, on est humaniste, on ne transmet pas les dossiers au direct, inspection du travail. Bien évidemment, je suis content de faire cela parce que j'estime qu'on a tous des devoirs. Et le meilleur est pour la fin. Je ne sais pas au départ à quelle sauce les demandeurs d'emploi allaient être mangés. Et je dois dire que la manière que les contrôles sont effectués est très digne. Pour l'instant, il n'y a jamais eu de tension. Parfois, des gens ronchonnent en disant qu'on n'a pas été prévenus, qu'ils n'ont pas été prévenus du contrôle. Il y a bien sûr une souffrance qu'il faut prendre en compte. Mais nous disons aux chômeurs que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de travail qu'il ne faut pas en chercher. Très fort.
Au moins faire.
Et alors, et elle termine comme ça, quand il y a une offre et qu'il y a 10 personnes qui postulent, il y a quand même une chance d'être la personne qui sera recrutée. Voilà. Ce qui est dingue, c'est que, bon, ce type de fonction sociale a toujours existé, évidemment. Sauf que, à une époque, bon, comme je le disais tout à l'heure, ces gens-là n'en étaient pas très fiers. Là, carrément, elle en est fière. Et elle ajoute une dose d'humanisme dans tout ce qu'elle fait. Ça traduit bien qu'on est vraiment de plus en plus dans une société complètement qui est réactionnaire au sens vraiment véritable du terme, et que ce type de personne, eh bien, maintenant s'exprime, et même s'exprime dans le blog du Monde. C'est quand même assez symptomatique.
Alors, ce genre de comportement, on pouvait en avoir, être témoin et le subir effectivement à Police Emploi, c'est d'ailleurs comme ça maintenant qu'on appelle ça, ce qui est le plus, on va dire, remarquable, c'est que, effectivement, la mentalité des conseillers de Pôle Emploi et des gestionnaires du chômage sont de plus en plus gagnés par le management, ou de toute façon les gens qui étaient à la limite contre ou qui avaient une approche différente, ils se sont tirés parce que ils peuvent pas travailler correctement. Je me souviens d'une émission qu'on avait faite ici avec une camarade de la CNT de Besançon sur qu'est-ce que c'était quand il y avait eu la fusion de travailler à Pôle emploi. Et je crois qu'il y a à la fois, bon, il y aura tout un tas de choses à dire là-dessus, mais il y a des victoires idéologiques qui sont à mon avis extrêmement craignos. Du genre, le chômage, c'est pas la charité, hein. Le chômage, c'est du salaire différé. C'est parce que vous avez cotisé. Quand vous avez votre salaire, vous avez une partie qui est du salaire immédiat et une partie qui est du salaire différé. Vous savez, c'est les charges, là. C'est pas des charges, hein. C'est du salaire, hein. D'ailleurs, au départ, vous avez votre salaire net. Mais puis vous avez aussi un salaire global qui correspond à toute la richesse que vous avez produite, en fait, avec une partie qu'on vous donne, enfin toute la richesse retirée avec ce que le patron s'est mis dans la poche, mais on va dire tout l'argent que vous avez produit, et une partie que vous avez donné tout de suite, c'est le salaire net, et une autre partie qu'on mutualise et qu'on met dans des caisses, justement pour le cas où il y a pas d'emploi, où il y a pas de salaire direct. Donc ça, à aucun moment on n'en parle plus, et c'est ce que les gens pensent avoir intégré, que effectivement le chômage c'est de la charité, quoi, et que donc du coup il doit y avoir un comportement, le bon pauvre, hein, qui soit vient la tête basse, évidemment, pour subir la morale de ce genre de personne, ou soit effectivement doit se démener dans un espèce de truc type Alice au pays des merveilles, du genre il n'y a pas de travail mais il faut en chercher quand même. Alors, ces gens-là, il faut revenir un petit peu ici, comme ils veulent nous traiter comme au 19e siècle. Faut revenir au 19e siècle, exactement. Faut leur cracher à la gueule, quoi. Faut leur dire qu'on est pauvre, mais qu'on est fier, et que de toute façon, le problème, c'est que y a pas mal de gens qui décident de ne pas se réinscrire parce que c'est insupportable, quoi, Pôle Emploi et la comment dire, le mépris au quotidien. D'ailleurs, on sait aujourd'hui que il y a plus de gens qui ne réclament pas ce à quoi ils ont droit, ouais, plutôt que de gens qui fraudent. Hein, c'est un scandale national de voir que des gens, soit parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'ils n'en ont pas les moyens intellectuels ou le temps, soit parce que l'administration est une saloperie, ça devient de plus en plus pénible pour avoir le moindre petit truc. Il faut faire des kilomètres de paperasse pour avoir trois cacahuètes. Et bah donc il y a des gens qui se barrent de tout ça et qui ne se réinscrivent pas et se démerdent alors à la fois dans une économie parallèle, de la débrouille, etc., etc. Et c'est pas pour rien aussi que va y avoir une remontée des illégalismes et que va y avoir une société qui va devenir de plus en plus violente, puisque les voies qu'on nous propose pour pouvoir survivre, elles sont de plus en plus bouchées, quoi. Il est clair que ce mode de gestion des chômeurs, il arrive dans une époque, un moment, une période où l'emploi est de plus en plus dégradé, de plus en plus dégradant, et il y en a de moins en moins, quoi. Et je pense que la réforme de l'assurance chômage qui a commencé il y a 15 jours, et oui, parce que pendant que on parle de tout un tas de choses, il y a des tonnes de trucs qui sont en train d'avancer. Finalement, on pense que le gouvernement et la gauche ne branlent rien, mais pas du tout. Et le réveil va être très, 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 très douloureux. Effectivement, là, depuis 3 semaines, on est en flip parce que on a des espèces de tarés qui descendent dans les rues et qui, auparavant, auraient pu nous faire ricaner. C'est vrai, vous imaginez, aujourd'hui, on donne la parole à des gens, on écoute des gens qui disent que on apprend à des gosses de 3 ans à se masturber dans les classes, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça dont on parle, quoi. C'est quand même incroyable, quoi. Et il y a tout un tas de choses qui se passent, qui se déroulent, dont malheureusement on n'en apprendra que après, quoi. Et ça va être très douloureux, quoi. Ouais, et bon, voilà.
Ouais, peut-être des choses plus réjouissantes à nous proposer.
Ah bon, parfois il y a un peu de justice. Non, parce que j'étais en train de dire des trucs sur la justice de classe, donc tu vois, c'est pas forcément très réjouissant. Donc il y a de la justice de classe quand même des fois, de temps en temps. Vous savez que les bourgeois sont des abrutis et des imbéciles, mais que vraiment ils ont des goûts d'abrutis et des goûts d'imbéciles. Je lisais là une brève qui signalait que dans un très grand restaurant britannique, classé 7e meilleure table de la planète, penses-tu, mené par un chef britannique, Eston Blumenthal, maître de la cuisine moléculaire. C'est ce genre de truc. En fait, c'est tu bouffes des molécules, quoi. T'as un petit truc dans ton assiette. Mais bon, c'est bien quand même d'y aller parce que c'est l'endroit où être, quoi. Alors, on a des magnifiques du ketchup de champignons à 78 livres.
Livre anglaise, hein.
Oui, livre anglaise, ça doit faire quelque chose comme 95 euros, quelque chose comme ça, ouais. De filets d'agneau, etc., etc. Bon, je te passe les trucs et les prix qui sont évidemment certainement ce qu'on peut nous dépenser en un mois pour s'acheter de la bouffe. Et dans ce magnifique restaurant, le pauvre Eston Blumenthal a été obligé de fermer son établissement, ainsi que son restaurant s'appelle le Diner, ainsi que son autre établissement à Londres, puisque son ambition de stupéfier, je cite, hein, stupéfier nos clients avec des sensations gustatives a été extrêmement atteinte, puisque l'ensemble de ses clients, 24 clients et 21 membres du personnel la semaine dernière, sont tombés malades de la grippe intestinale. Et c'est assez hard puisqu'il y a quand même eu 5 hospitalisations, quoi.
c'est quand même pas la petite gastro, quoi.
Voilà, c'est pas la petite gastro, quoi. Donc ben voilà, ça c'est 2 étoiles au Michelin. Donc je ne sais pas ce qu'il est devenu de ses clients et des membres du personnel, mais bon, bien fait pour eux, quoi. C'est on ne pêche que on est puni par là où on pêche, donc voilà, effectivement. Donc voilà, bien manger donne la chiasse, hein, et en plus c'est cher.
Est-ce que t'as d'autres trucs, hein?
Oui, j'ai d'autres trucs. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Ah oui, je peux vous raconter que on va parler pour une fois de nos amis toulousains, puisque vu qu'on est rediffusé sur Canal Sud, la LDH, la Ligue des Droits de l'Homme de Toulouse, présidée par Patrick Castex, je crois. Non, il est juste membre du bureau de la LDH, pardon, c'est pas le président, vient de publier un livre qui s'appelle « Comparution immédiate, quelle justice ?» qui étudie 5 mois de comparution immédiate dans les différents tribunaux de Toulouse. Alors, pendant ces 5 mois, l'étude a concerné 543 affaires, ces 543 affaires ont représenté la moitié de toutes les affaires traitées au cours de l'année, à peu près, hein. On est à, c'est ça, 46% de l'ensemble des affaires. Et 46% des affaires à Toulouse passent en comparution immédiate. C'est incroyable. Et le constat de cette étude est que ben, clairement, on a affaire à une justice de pauvres et ce que eux appellent coloriste, que nous appellerons raciste. En effet, hein, sur les prévenus qui sont passés dans ces 543 comparutions immédiates, sur ces prévenus, 50% ont moins de 30 ans, ouais. 50% sont au RMI ou titulaires du RSA,
RSA.
11% ont un revenu égal au SMIC, pas plus, et 65% des prévenus sont issus de la diversité, c'est-à-dire qu'ils sont arabes ou noirs. Hein. Paradoxalement, on pourrait dire que, on pourrait interpréter ça comme, tu vois, mal, de manière méchante, en disant, ben, la plupart des infractions sont le fait d'arabes et de noirs pauvres. Mais non, en fait, parce que on peut pas parler d'une population délinquante, puisque la majorité, quand on regarde pourquoi ces gens-là sont condamnés ou pourquoi ils passent, 17% de ces cas sont là pour une infraction stupéfiant.
Ouais.
Contrairement à 10, environ 10% des cas dans des autres types de populations, et ces prévenus issus de la diversité, les Arabes et les Noirs ne représentent que 30% des affaires d'atteinte aux biens des personnes. Donc on a des gens qui sont plus concernés soit par la vente ou la consommation de produits stupéfiants plutôt que, on va dire, dans la délinquance réelle et concrète. Hein, en gros, les attaques sur les personnes pour pitié, quoi. Donc statistiquement, on peut démontrer que il y a des fantasmes ou des préjugés qui tombent. Ça montre, c'est déjà très intéressant pour voir de quoi traite la justice à ce moment-là, quoi. Et alors évidemment, il y a aussi le résultat de ces comparutions immédiates. 58% des comparutions immédiates se soldent par la prison. 86% des SDF ou des gens qui n'ont pas déclaré de domicile lors de ces comparutions immédiates sont soumis à un mandat de dépôt. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont interpellés, arrêtés, mis en prison tout de suite, quoi. Disparaissent, un enlèvement, quoi. Quand on parle de laxisme de la justice, ouais, et que si on n'a pas de garantie de représentation, comme on dit, ou si on n'est pas capable de pouvoir amener des billes au tribunal, c'est la tôle, quoi. Une fois encore, on voit bien qu'on n'est pas jugé pour ce qu'on fait, mais on est jugé pour ce qu'on est.
Bien sûr.
On est jugé réellement pour ce qu'on est. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, évidemment, il y a un non-droit à la défense, ou en tous les cas un non-respect du droit à la défense, puisque la préparation des audiences, elles sont... comment dire,
pour préparation immédiate, de toute façon, tu choisis pas ton avocat.
Exactement,
déjà.
L'affaire ne peut absolument pas être préparée. Et puis, autre chose, bon... On a déjà dit ici que vouloir rendre la justice, c'était quelque chose qui relevait d'un sentiment divin. Est-ce que la justice a peut être rendue? Mais bon, en tous les cas, si il peut y avoir une justice, notamment pour les victimes, voir ce qui pourrait être fait, eh ben sur cette étude toulousaine, on voit que sur ces 543 affaires, il y avait 103, pardon. Il y avait 674 cas où les victimes étaient susceptibles de se porter partie civile. Ok. 150 de ces victimes n'ont pas pu le faire à l'audience. Et 170 n'ont pas pu se libérer pour cause de délais trop courts. Ce qui représente la moitié des victimes. C'est-à-dire que, en fait, cette justice-là, elle est non seulement injuste, mais elle est inefficace pour rendre la justice, puisqu'il y a des victimes qui ne peuvent pas faire valoir leur droit à être reconnues et à être indemnisées en tant que victimes telles qu'elles pourraient y avoir le droit si on était dans un procès, ou en tous les cas dans une stratégie judiciaire banale, en tous les cas plus correcte, quoi. Donc on voit vraiment que la comparution immédiate...
C'est une justice déception.
C'est une justice clair. Déception, mais qui a tendance à se banaliser. En tous les cas, c'est pas une justice, quoi. C'est quelque chose. C'est une punition qui a pour vocation à traiter des problèmes sociaux et pas du tout des problèmes de justice. Alors, je donne encore quelques chiffres, hein, parce que là, c'est Toulouse, donc ça a été un petit peu tripatouillé, ça a été bien disséqué, donc on peut voir. D'une manière générale, ce qui se passe à Toulouse se passe partout pareil, hein, c'est très très à l'image, puisque en 2011, il y a 43 000 affaires qui sont passées en comparution immédiate. Et
En France.
En France, ouais, en 2011, et sur ces 43 000 affaires, 15 200 ont abouti sur un mandat de dépôt. C'est-à-dire 35% des gens qui passent en comparution immédiate vont en prison.
Ouais, voilà. Alors, contrairement à ce que disent certains avocats, hein, on a connu ça sur Reims, ils disaient que pour en prendre moins, il fallait justement accepter la comparution immédiate.
À titre
rappelons-nous.
Tout à fait. Et pour les statistiques, c'est l'art de mentir avec précision, mais on peut quand même essayer de comparer, voir. Donc 43 000 comparutions immédiates, 35% qui vont en taule, tandis que nombre d'affaires passant suite à une procédure normale avec instruction, 14 600, nombre de condamnations suite à ces instructions qui font l'objet d'un mandat de dépôt, 720, c'est-à-dire 5%. Donc passer en comparution immédiate, c'est, j'ai pas dit condamné, hein, j'ai dit aller en prison à l'issue de l'audience, hein, c'est avoir 7 fois plus de chances de finir la journée en taule, quoi. Donc voilà, hein, là-dessus on le dira jamais assez, comparution immédiate, non.
Non, ouais, non. Ça, c'est clair, ouais. Ouais. Bon, on va peut-être se quitter là-dessus, à moins que tu aies quelque chose à dire, Camille. Non.
Les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maintenir, seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital et la rationalité économique de la rationalité de l'État. Alors nous, on le considère ni fatale, pas du tout, on ne la considère pas fatale. Et en petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants, le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, c'était les Régors. Chaque semaine, sur l'écho de Ligarigue à Montpellier, Canassu à Toulouse, Radio Primitive sur Reims. Les Régors, une parole anarchiste communiste que vous pouvez retrouver sur le blog de Chat Noir 51 et sur le site OC Libertaire.